number we have for you.
Give me an F. Give me a U. Give me a C. Give me a K. What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
C'est Canal Sud et que c'est 92.2 MHz et qu'il est 21h30 le dimanche aussi. C'est les bébés dinosaures qui arrivent, qui commencent par saccager méthodiquement le matériel.
Ah, ouh, baisse.
Et par bousiller la technique et leur tympan. Mais attends, c'est juste un petit moment, après on va bousiller vos tympans.
Chuchote, Tommy Boy, chuchote.
Ah ouais.
Ah là là. C'est secret tout ce qu'on dit là.
Oui.
Ah, Rock 70.
Ah, Rick Santorum nous écoute.
Aïe. Qu'il aille pourrir en enfer, celui-là.
Eh bien, oui, bien sûr. Et pour le moment, mon cher,
oui.
Je vais faire preuve de bonnes intentions. Donc, je vais passer un morceau qui s'appelle I Don't Wanna Hurt You Anymore.
Ouais, ben, c'est bien gentil de ta part.
Ouais, mais.
Je pense que tu penses aux auditeurs aussi.
Ça risque de s'évaporer assez vite, malheureusement. Tu sais ce que sont les bonnes intentions.
Laughing and it's true that I don't wanna hurt you.
Bah, rien de mieux qu'un bon vieux boogie là pour mettre en train.
Sauf que c'est un bon vieux jeune boogie puisque c'est status quo bien sûr, c'est signé, c'est même status quo se parodiant eux-mêmes. C'est tiré de leur album de 2007. Bah, c'est
qu'ils ont toujours fait, ils ont fait ça pendant des années.
Bah, bah une fois qu'ils ont eu trouvé le style, effectivement, ils ont reproduit.
C'est-à-dire sur une quinzaine d'albums au moins.
Non, pas tant que ça justement. À un moment, ils ont arrêté de le faire. C'était moins bon. mais là, dans les années 2000, ils sont revenus au bon gros boogie qui a été leur meilleure époque.
C'était plutôt bien fait, oui, c'était pas mal. On se croirait un petit peu à la grande époque, hein, quelque part.
Et avec un petit peu d'humour, puisque cet album s'appelle, sorti en 2007, In Search of the Fourth Chord, à la recherche du quatrième accord, parce qu'ils en connaissent que trois.
Et puis le jour où ils en ont essayé un quatrième, c'est devenu nul. Alors, bon. Les Groundhogs maintenant, on va se calmer un petit peu. Partir vers du blues psychédélique assez allumé quand même avec cet album que tu m'as filé récemment, que j'ai écouté avec attention, Live at Leeds en 71. Apparemment c'était un concert où les Rolling Stones ou en tout cas Mick Jagger avait assisté au concert
et, oui ben, parce que les Grand Dogs faisaient la première partie des Rolling Stones je crois,
mais pas encore apparemment. Non. Et c'est en voyant ce concert que Mick Jagger finalement s'est décidé. Ils avaient prévu un autre groupe, mais bon, ils n'étaient pas très sûrs. Finalement, ils se sont décidés pour les Grand Dogs, pour une tournée qui a suivi. Et on s'est écouté le morceau qui ouvre l'album. Là. Alors, il n'y a que 5 titres, hein, parce que c'est assez long quand même. Hein. Il y a pas mal de digressions chez les Grand Dogs. Là, hein.
Mais c'est pas des digressions, c'est l'essentiel. C'est la substance du morceau, le solo de Tony McPhee, de 5 minutes.
qui part en vrille de temps en temps. Très hendrixien quand même dans l'esprit. Et très blues, roots parfois, un mélange des deux le plus souvent. Le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Cherry Red, il est assez prenant quand même, je trouve.
C'est leur grand tube.
Ouais, c'est un de leurs meilleurs titres, sûrement. Les Grand Dogs. We'll be right back.
6 minutes 22, mais on le voit pas trop passer.
Et non, ouais, parce que ça tricote toujours. Hein.
Un morceau un peu possédé. Il y a quelques longueurs de temps en temps, quand même, certains titres. Mais quand il. Sur ce genre de morceau, là, c'est vrai que c'est totalement envoûtant, je trouve. Mm. Les Grand Dogs, donc, live en 71. Ils ont combien d'albums ils ont fait, ceux-là ?
Oh, alors, difficile de dire, parce qu'il y a eu des reformations.
Ouais, mais dans le. Disons, dans leur période
classique, voilà. Au moins 5 ou 6.
Hein. Voilà. Je crois que 2 ou 3, il y a toujours des merveilles.
Ils ont commencé par un truc qui s'appelait. Je crois que c'était Scratching the Surface, ensuite Blues Obituary. Mm-hmm. Mais ils se sont vraiment. Ils ont vraiment trouvé le style, si tu veux, le côté blues psychédélique, avec l'album Thank Christ for the Bomb.
D'accord.
Qui a été suivi, je crois, par Split.
Split, je peux le recommander.
Voilà, considéré comme leur chef-d'œuvre.
Je le connais, le précédent, non. Mais Split, c'est vraiment très bon.
Ouais, c'est excellent. Il y a une face entière qui a 4 morceaux, qui est Split Part 1, Split Part 2, Split Part 3.
Ah bah c'était le genre. Hein.
qui s'enchaînent tous, qui sont essentiellement des instrumentaux. Enfin, s'il y a quelques paroles hein, quand même, mais.
Des déchirades de guitare. C'était un guitar héros magnifique.
Fantastique.
Tony McPhee.
Ouais. Et après, c'est devenu quand même un peu plus.
Casse-couille, chiant.
Ouais, enfin, progressif. Ça tirait à la ligne. Non, ça tirait à la ligne. Disons, les morceaux étaient moins frappants. Il y a eu 2 autres albums au moins. Who Will Save the World, The Mighty Groundhogs.
Mmh. Avec une BD, et, non, en couverture.
Avec une BD en couverture. Ouais. Et puis Hogwash.
D'accord.
Après, j'oublie un peu. Il y a aussi eu les albums solo de Tony McPhee qui sont pas mal.
Très bien. Mmh. Et l'intervalle du diable, alors ?
Ah, l'intervalle du diable. Ben, le diable m'a eu, parce que j'avais complètement oublié l'intervalle du diable dans l'intervalle. Mais l'intervalle du diable, c'est, paraît-il, comment dire, une association de notes, un espace entre deux notes, une différence de fréquence, si tu veux être technique.
Mmh. Oh, je suis.
qui est censée être particulièrement dissonante dans la musique occidentale. Et c'est celui qui divise l'octave en deux de façon égale. Donc ça devrait correspondre à racine de 2 au niveau.
Voilà,
de
la je fréquence. Te suis plus là. Ben, mais octave, c'est pas grave, les auditeurs suivent.
Voilà, un octave, c'est quand tu multiplies par 2 la fréquence du signal, ça je sais.
D'accord.
C'est pour ça que tu as l'impression d'entendre la même note, parce que les deux vibrations sont parfaitement calées, parce qu'il y en a une qui a les fréquences doubles de l'autre. Ouais. C'est ça un octave. Et quand tu divises un octave en morceaux, eh ben tu fais une espèce de truc comment dire, tu fais une espèce de truc qui est régulier dans le logarithme, parce que quand tu entends des intervalles musicaux, c'est toujours les rapports de fréquences que tu entends.
Moi j'entends plus rien,
tu multiplies. Ben, moi non plus, j'ai jamais été foutu de distinguer une tierce majeure, une tierce d'un accord majeur, d'un accord mineur,
oui,
une tierce.
Bon, et tu oses faire une émission de musique sur Canal Sud. Mais enfin.
Voilà. Non, mais tu sais, moi je connais que ce qui est facile, la théorie. Donc je sais que le tempérament régulier, qui est arrivé à peu près à l'époque de Jean-Sébastien Bach, correspondait à approximer le logarithme de 3,5 en base 2 par 7 douzièmes.
D'accord, je vois très bien là.
Voilà, donc mais grosso modo, si tu veux, si tu prends une octave, c'est divisé en 12 intervalles égaux qui s'appellent des demi-tons classiquement, puisque certaines notes ont qu'un demi-ton entre elles et d'autres ont deux demi-tons entre elles.
Et l'intervalle du diable alors ?
Alors l'intervalle du diable, c'est 6 demi-tons. C'est-à-dire si tu prends ton piano, si tu prends les trois touches blanches, les quatre touches blanches qui ont exactement trois touches noires entre elles,
oui.
Ça existe, ça va du fa au si, ça je sais ça. Et ça fait l'intervalle du diable.
Ah ben nous voulons bien avancer.
Ou du do au fa dièse si tu veux, ou n'importe
d'accord.
quel. Tu pars d'une note et puis tu comptes.
Et alors quand tu fais tan,
eh ben je suis capable de te dire parce que quand tu fais tan, je peux pas te dire quelle note c'est, mon pauvre ami.
Oui, mais ça c'est l'intervalle du diable, non?
Alors ce qu'on raconte, c'est qu'effectivement Tony Iommi aimait bien mettre l'intervalle du diable dans ses morceaux. Mais c'est pas lui qui l'avait appelé comme ça. Ça faisait au 18e siècle que les gens ont commencé à appeler comme ça parce que les goûts se sont affinés. On a dit que certains intervalles étaient plus jolis. Et en plus, il y avait cette histoire de tempérament régulier qu'on faisait pas avant.
Il y a une forme d'uniformisation, qu'on va dire.
Voilà. Et donc cet intervalle-là est devenu mal vu, très mal vu, considéré comme difficile à jouer, pas beau et tout. Et ils ont commencé à appeler Intervallus Diavoli.
D'accord. Tu crois qu'Ozzy Osbourne était au courant?
Ozzy Osbourne.
De toute façon, lui, quand il chante, quoi qu'il fasse, c'est un intervalle du diable ambulant.
Eh ouais, moi, c'est mon grand modèle.
Bah oui, je me doute.
Ça montre que t'as pas besoin de chanter juste ou de connaître la musique pour être un grand chanteur.
Ah oui,
alors j'espère toujours que je vais trouver mon Tony Iommi, mais j'ai pas encore trouvé. Hein.
Heureusement. Bon, on va s'écouter une démonstration d'intervalle du diable.
Alors, on va s'écouter le morceau Black Sabbath par Black Sabbath, tiré de la Peel Session qu'ils ont enregistré en 1970 et qui est sorti en vinyle par des voix impénétrables, parce que les voix de Satan sont elles aussi impénétrables. Black Sabbath.
Chosen one. Thank you.
pas.
Ah ben ça dure 9 minutes, on les voit pas passer. Hein.
Et puis je me suis laissé avoir parce que dans la version live, il y a pas la fausse fin qu'à la version studio, tu sais.
Eh ben écoute, après ce festival d'intervalle du diable, on va se calmer un petit peu avec la version originale d'un grand tube, le morceau Sailing, qui est devenu un énorme tube avec Rod Stewart en 75, je crois.
Ouais, sur son album Atlantic Crossings.
Voilà, mais qui est en fait un morceau enregistré un petit peu plus tôt par un groupe appelé Sutherland Brothers, avec effectivement deux frangins, Ian et Gavin, je crois, qui ont un temps joué en duo, folk, puis après ils se sont accoquinés avec un groupe plus rock qui s'appelait Quiver, je crois. Ouais. Voilà. Ils ont sorti un paquet d'albums quand même, je sais pas. Avec Quiver, il y en a eu pas mal dans la deuxième moitié des 70, on va dire. Après, je sais pas trop, ils sont revenus en duo, ils ont fait des tas de trucs. J'ai vu que Gavin, là, il est toujours en activité, plus ou moins, en tout cas, il a sorti un album en 2008. Et ils ont eu, ça n'a pas été un tube Sailing pour eux, mais ça passait pas mal à la radio, ça avait été un morceau qui a été repéré, disons. Et ils ont eu un tube un peu plus tard, là, j'ai oublié le titre, Mary, je sais pas quoi, il y a Arms dans le titre, et il y a Mary, tu vois. Mais alors, pour le mettre dans l'ordre, je sais plus. Bref, ils ont eu ça, hein, ils ont eu ce tube-là vers 76 par là. Voilà tout ce que je sais sur les Sutherland Brothers. On va s'écouter donc ce morceau Sailing sur leur album Lifeboat en 72. Et tout à l'heure, une reprise. Et pas par n'importe qui. Par les Roses. Ceux qui...
Oui, d'accord. C'est significatif qu'on peut apprendre en un quart d'heure ce morceau.
Exactement. Enfin... Dans la version qu'en font le 10 Rose, qui la semaine dernière nous ont massacré avec une joie et un bonheur évident, Black Sabbath, de Black Sabbath. Et bien cette semaine, ils nous massacreront Sailing tout à l'heure. Voici la version originale par les Sutherland Brothers. Voilà, bon,
ça ressemble tout à fait à ce qu'en a fait Rod Stewart, à vrai dire. Il n'y a pas tellement.
Ouais, l'arrangement est un peu différent, j'imagine. Là, ça a un côté un peu plus, je sais pas, un peu plus sombre, bizarre, je trouve. Mais évidemment, Rod Stewart a fait ce qu'il fallait pour que ça devienne un gros tube commercial, quoi, évidemment. C'était donc en 72 l'original de Sailing par les Sutherland Brothers.
Alors on va pas faire dans le commercial, on va passer Revolutionary Blues, qui est un morceau de MC5 qu'ils ont jamais sorti, ou peut-être qu'ils ont repris, hein, mais qu'ils ont jamais sorti sur un disque. Hein. C'est un truc enregistré en public au fameux Sturgis Arbory,
ouais, ouais,
en 68. Donc tiré d'un concert là, téléchargé. Et bah, qu'est-ce que tu veux, un peu de temps en temps, un peu de MC5, là, bienvenue. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Puis ça fait du contraste avec les Sutherland Brothers.
Ah, c'est sûr.
Hein, voilà. Donc, MC5, alors ça va pas être les rois du son clean, hein, attention. Hein.
Thank you.
Voilà. Bon, c'est pas avec ce genre de blues qui vont faire la révolution quand même, hein. Faut pas rire.
Musicalement, non. Mais bon, c'est quand même excellent. Blues rock, tu vois, avec tout ce qu'il faut, le giclée de guitare et tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont fait mieux par la suite.
Voilà, les MC5, on rappelle qu'un autre membre vient de mourir récemment, c'était Michael Davis. Il n'y a plus que deux survivants. Le batteur et un des guitaristes, Wayne Kramer. Voilà. On va finir peut-être notre rubrique We Got to Get Out of This Place. On n'a toujours pas écouté de version par les Animals.
Comment on l'a pas écouté?
Non, je crois pas. Si. Ah, je me trompe.
Si, je l'ai passé, peut-être que tu n'étais pas là.
Ah, c'est possible, c'est possible. Ouais. D'accord, d'accord. J'ai rien dit. Et on va s'écouter la version de Grand Funk. Alors, je me souviens, quand j'étais encore gamin, j'avais beaucoup entendu parler de Grand Funk, notamment d'album live. Ah, j'ai dit à mon frangin qui habitait à Paris, parce que tu sais, pour trouver du Grand Funk à Rouffignac, c'était pas la peine. À Périgueux, c'était pas évident non plus. Et donc, j'ai dit à mon frangin à Paris, là, bah, écoute, achète-moi Grand Funk Live, là, pour, je sais pas, pour Noël. Et il était revenu fièrement avec Grand Funk Lives. Ah, il y a un S qui changeait tout. C'était pas le double album live mythique et monstrueux de Grand Funk, c'était un album de reformation de 81. On retrouvait Mark Farner, le leader, le chanteur, guitariste, etc. Don Brewer à la batterie, mais un nouveau bassiste. J'ai oublié le nom du bassiste d'origine.
Schachner ou quelque chose comme
c'était,
ça.
C'était un nom en heure en tout cas. Ouais. Et alors c'était évidemment un concept dans le groupe puisque le nouveau bassiste s'appelait Dennis Bellinger. Mais bon, alors c'est un album que j'ai réécouté. Pas désagréable, hein. Mais qui manque un peu de folie quand même, avec pas mal de morceaux assez funky comme ils ont toujours fait finalement. Le nouveau bassiste, un black d'ailleurs, qui tient le groove avec une grande maîtrise. Et sinon, bon, il y a quelques balades abominables et des morceaux beaucoup moins marquants, donc je le recommanderai pas, hein. De toute façon, les albums de reformation sont rarement recommandables quand même malgré tout. Mais toujours est-il que c'est là-dessus qu'ils ont repris We Got to Get Out of This Place, une version tout à fait honnête qu'on va s'écouter de Rush F, Grand Funk donc en 81. Grand Funk. C'était plus Grand Funk Railroad, hein, c'est redevenu Grand Funk apparemment. Sur ce disque, sur l'album Grand Funk Lives en 81.
Ouais, wow, c'est une version honorable, défendable.
Ah oui, oui, oui.
Eh bien écoute, on va s'écouter quelqu'un qui a fait beaucoup de reprises. Steve Marriott, avec une incarnation tardive de Humble Pie. C'était à Atlanta en 1982. Pardon, c'est un concert à Cincinnati en 1983, mais il vivait du côté d'Atlanta. Il s'était déplacé aux États-Unis à l'époque. Et le morceau, ben, ça s'appelle Rude. Je ne sais pas de qui c'est ça. Williams. Non, c'est peut-être de lui en fait. Et puis, c'est enchaîné sur 30 Days in the Hole, un classique d'Humble Pie. C'est un peu long. C'est un peu long.
Mais c'est pas mou, j'espère.
Oh non, il y a un saut de batterie et tout.
Oh là 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 là, quel bonheur.
There was a young lady from Ealing, invented a wonderful feeling. She laid on her back, she opened her crack and pissed all over the ceiling. Sorry about that, I digress. On the bass guitar, Keith Christopher from Atlanta, Georgia. Sorry about that. Over here we got Sat, I beg your pardon, Duck Dix. He's from Toledo, Ohio! And did this man try to sell you a watch as you were coming in? Well, he was trying to sell you his fucking mother if you had a chance. Look at him. He's a great drummer. His name's Fallon Williams III. That means there's three of these motherfuckers. Listen to him. Yep. We'll be right back. song. 30 days in a hole. Sing the song.
Thank you.
Ouais, il sait pas s'arrêter. Hein.
Ah, c'est le morceau qui durait 30 jours, disons.
À la fin du morceau, il s'est lancé une espèce de vieux blues, là. C'est Pick a Bale of Cotton. J'ai plus Pick a Bale of Day. Steve Marriott, donc, avec Humble Pie, sous forme de trio, apparemment, à l'époque. Il n'est plus avoir un rond. Et qui jouait aux États-Unis en 83.
Eh bien, notre album classique du moment, c'est l'album blanc des Beatles. Et on est arrivé, on commence à aller vers la fin de du premier vinyle, et on en est arrivé au morceau « Don't Pass Me By ». Ah, grand moment, bien sûr, du double album blanc, puisque c'est le premier morceau de Ringo Starr qui a été enregistré et sorti par les Beatles. Et il paraît qu'il voulait le placer depuis 64.
Le titre a quelque chose, donc, du coup, de... Comment dire, de descriptif.
C'était
ne m'aimez pas.
C'était déjà
ne me laisse pas de côté.
Il avait déjà les paroles visiblement, mais McCartney se moquait de lui en disant bah oui, bon, peut-être un jour il y en aura un, mais il les finit jamais ces morceaux. Mais déjà dans une interview en 64 là, il expliquait qu'il avait, alors qu'on lui posait la question si jamais s'il allait se mettre à composer, qu'il avait un morceau et que un jour ou l'autre il espérait bien qu'il soit sur un disque des Beatles. Et ça finit par arriver. En 68 sur l'album blanc, un morceau où semble-t-il n'apparaît que McCartney à la basse. Et alors sur les crédits qu'il y a dans Wikipédia, hein, Ringo Starr est crédité de la batterie, mais du piano aussi, du chant bien sûr, et du piano, c'est plutôt une sorte de piano électrique qu'on entend, ou un orgue, avec un type au violon qui s'appelait Jake Fallon, qui était un grand musicien de jazz, paraît-il, très réputé, qui a joué avec les plus grands, et qui a aussi monté une agence de... Comment on dit en français, de booking, tu vois, d'organisation de tournée, qui a eu comme client les Beatles. Alors, il le connaissait, le bonhomme, ils lui ont dit de venir pour l'album blanc, faire 2-3 trucs. Voilà, donc Pass Me By. Il paraît quand même, Ringo avait participé, non pas vraiment à des morceaux, mais à des titres de morceaux précédemment avec les Beatles, car les Beatles étaient très fans de ce qu'ils appelaient les Ringoisms, les aphorismes de Ringo, les bêtises qu'il pouvait dire, ou les phrases un peu bizarres, ou les formules un peu bizarres qu'il pouvait avoir, comme par exemple « Tomorrow never knows », ça vient de Ringo, ça. Ou encore, c'était quoi l'autre ?« Hard Day's Night ». Je me suis souvent demandé qu'est-ce que ça voulait dire exactement « Hard Day's Night ».
Ah oui, donc c'est pas une expression anglaise idiomatique.
Bah, apparemment non, ce serait une expression ringomatique. Ce serait Ringo qui avait ce genre d'expression que les autres adoraient.
Oui,
on trouvait très drôle.
En même temps, tu la comprends parfaitement. Tu dis, t'as travaillé dur, tu vas dormir. Bon, c'est ce qu'ils disent dans la chanson.
Voilà, c'est
mais,
Day's Night qui est.
A good day's work. A good day's work, c'est une expression qui existe en anglais par contre.
D'accord, mais si tu veux associer nuit et jour de cette façon, la nuit du jour, quoi. Tu vois, la nuit d'une dure journée.
Il fallait la trouver.
Donc c'était ce genre de formule qu'aimaient beaucoup ses copains des Beatles, qui ressortaient sous forme de titre de morceaux. Et par la suite, il en a quand même composé un autre, c'était Octopus Garden, qu'il avait composé d'ailleurs pendant l'enregistrement de l'album blanc, parce que je vous ai raconté que à un moment il y avait des tensions dans le studio, l'enregistrement a quand même été assez long, et à un moment Ringo il s'est barré, il n'en pouvait plus, il a claqué la porte, il est resté, je ne sais plus, 3 semaines en vacances, là, et puis il a fini par revenir pour finir les enregistrements. Et pendant ces 3 semaines, pendant ce petit intermède, il a composé ce morceau qui figurera ensuite sur Abbey Road. Il y a eu pas mal de reprises, notamment par les Punkles. J'ai complètement oublié de vérifier. Ça se trouve, je l'ai par les Punkles. J'ai quelques disques des Punkles. Tu ne connais pas les Punkles?
Ah non.
C'est un groupe allemand qui est spécialisé dans les reprises des Beatles, façon punk, bien entendu. Les Punkles.
D'accord.
Ah, il faut que j'y ressorte, un de ces quatre, là. Les Punkles, c'est très rigolo. Et les Ruttles. Alors, ça, tu connais les Ruttles,
oui, les Ruttles
bien sûr.
Ouais.
N'ont pas repris, puisqu'ils reprenaient pas vraiment de morceaux des Beatles, mais ils piquaient, ils transformaient, ils s'inspiraient de morceaux réels des Beatles pour faire les leurs. Et il paraît qu'il y a 2 titres des Ruttles qui sont inspirés par Don't Pass Me By. Voilà. Donc, on va se l'écouter, ce Don't Pass Me By avec Ringo Starr et sa voix magnifique sur l'album blanc 68.
Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps
but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a-ticking on the mantel shelf. See the hands a-moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it head to soul. Hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. I'm sorry that I doubted you, I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. So I hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go. Don't pass me by.
Il fait.
Oui. Ah ouais, non, là, ça enchaîne.
Ouais, c'est la suite. Donc, je me disais qu'on entendait le bruit des chaussures, justement, de la fille
très...
qui est censée ne pas sa... qui est censée s'arrêter, justement, ouais. Ne pas passer devant lui.
Ah, c'est la fin est triste. Hein.
Ouais.
Voilà, c'était un morceau vaguement country. Donc, de Ringo Starr, j'ai oublié que pour l'anecdote, parce que nous suivons les aventures, bien sûr, de la secte Police Dead. Mmh. Eh bien, dans ce morceau, il y a une ligne qui dit « You were in a car crash and you lost your hair », qui est une expression qui signifie, je crois, perdre son calme ou être énervé, être tendu, je sais plus, « lost your hair ». Mais enfin, le « you were in a car crash » a été considéré comme un indice de plus de la mort, bien entendu, de Paul, avant l'enregistrement de l'album blanc. Pour l'anecdote, hein, parce que c'est assez facile de trouver des indices, comme on l'a déjà raconté.
Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Quick, le violoniste sur la fin, là, si on l'écoute de près, il y a un petit côté Cajun. Hein,
voilà. Alors, je précise que c'était pas un violoniste d'origine, hein, c'était un bassiste.
Ouais.
Voilà, parce qu'il a quand même pas non plus. enfin, moi, en violon, je connais rien, mais bon, ça a pas l'air d'être un super virtuose non plus.
Non, mais il fait du sympathique violon country.
Voilà, son instrument de base, c'était la basse, semble-t-il, ou la contrebasse, je sais plus. Et là, il joue du violon parce qu'il devait jouer tout comme tous ces génies du jazz.
Il y a quatre cordes.
Voilà, ça et va. Donc il joue du violon pour faire plaisir aux Beatles qu'il avait invité, puisque c'était une de leurs connaissances. Et il a joué avec pas mal de bluesmen aussi, et avec Django Reinhardt, ce qui est quand même signe. Notre ami, comment il s'appelait déjà ? Jade Fallon.
Où en suis-je ?
Un morceau sans guitare, tu as remarqué.
Oui. Il y a du piano, il y a de la basse. Voilà.
Mais j'ai plus rien à dire sur le morceau, donc j'espère que tu as retrouvé tes esprits.
Ouais. Esprit, êtes-vous là ? Oui. Oui. T'as remarqué que c'est pas Van Halen ?
Non, pas de air guitare ce soir.
Et ouais, on manquait de platine vinyle. Ce soir, on va s'écouter un single ou une face. Non, c'était une face A. Enfin, c'était une face A en Europe. Et ça a été qu'une face B en Grande-Bretagne, parce qu'ils sortaient pas les mêmes singles dans les années 60, forcément, dans tous les pays. Donc, un single des Kinks qui s'appelle Mr. Pleasant, une chanson qui doit remonter à 66, mais qui est sortie qu'en 67. Avec toujours le même côté un peu satirique que A Well Respected Man, c'est-à-dire un monsieur bourgeois, bien riche, bien de sa personne et tout, mais enfin qui est quand même abondamment cocufié en fait. On apprend à la fin de la chanson. Donc les Kinks, Mr. Pleasant.
Oh, Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? I hope the world is treating you right, and your head's in the air, and you're feeling so proud, 'cause you're such a success, and the whole wide world is on your side. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good, Mr. Pleasant is kind, Mr. Pleasant's okay, Mr. Pleasant don't mind. As long as Mr. Pleasant's alright. Hey, hey, how are you today? How's your father? How's your mother? How's your sister? How's your brother? How's your brand new limousine? 24-inch TV screen. Is she like prosperity more than you like poverty?
Life is easier, so much easier. Life is easier now.
Oh, Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? Was hurting around with another young man, and he's taking her out when you have to work late, and it's not so pleasant after all. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good,
and just go
Mr.
Mr. Pleasant avec Nicky Hopkins qui accompagnait les Kinks comme souvent. Et on s'en passera peut-être une reprise un de ces jours. Il y a une reprise un petit peu rigolote et idiote de ce morceau qui traîne.
Allez, enchaîne.
Alors on enchaîne sur un morceau que vous allez certainement reconnaître.
doesn't mean you don't love me anymore.
Il n'y a pas de guitare dans l'original, mais là, évidemment, ça change tout.
Ça, ces mecs-là, ils peuvent te prendre n'importe quelle chanson et t'en faire un gros boogie poisseux. Hein.
Ah, c'était les Georgia Satellites. Ah ouais, qui ont eu quand même des bons moments dans le genre, effectivement, boogie rock'n'roll, rentre dedans.
Oui, c'est vrai que c'est pas, ils n'ont pas inventé les trois accords, mais ils sont très agréables. Je les avais vus en concert une fois, en première partie, de Jason and the Scorchers.
Ah oh, bah c'était un peu le même esprit, ouais.
Ouais, Jason Scorchers avait un côté un peu plus country, un peu plus déjanté.
C'est vrai. C'était sur leur album Open All Night en 88. Mm-hmm. Les Georgia Satellites faisant un sort à Don't Pass Me By des Beatles, bien sûr.
Eh bien, maintenant, il faudrait que je fasse un sort. À quoi ? Il faudrait que je fasse un sort. À mon jingle préféré ! Bien sûr. Attends, est-ce qu'il marche ce jingle ?
Oh, ben laisse tomber alors, parce que j'ai encore un morceau à passer, donc bon.
Ah ouais, mais c'est quoi là ?
C'est pas grave, c'est pas grave. Pas en entier ce soir, hein ? On a pas le temps,
allez,
on a pas le temps.
On fait qu'un petit bout, on fait qu'un petit bout, allez. Voilà, on a entendu les Sargodec, on est content.
C'est bon, c'est bon.
Allez, bon, je vais te passer dans le fromage de chèvre, Joël Daïdé. Joël Daïdé, Mamie Blue.
Ah oui, oui, oui.
Alors,
oui,
ça y avait
oui,
Nicoletta, oui, bien sûr. Oui. Mais Daïdé a fait aussi pas mal de succès avec sa propre version de
nom,
Mamie Blue. Et ensuite, il a dû se gagner du fric, mais il a dû le claquer en drogue ou je ne sais pas quoi. Il a continué sa carrière. Je l'ai même vu il y a quelques années à l'Irish Coffee, à l'époque où ça existait encore, à Toulouse.
D'accord.
C'est le mec qui a fait toute sa vie de la chanson rock, en fait, et pas mal de blues et choses comme ça. Et ses disques des années 70 sont souvent tout à fait potables et même honorables. Et donc, on va l'écouter faisant de la musique marocaine, parce que d'habitude, c'est pas trop le fromage de chèvre, Joël Daïdé. Mais là, c'est la musique marocaine. C'est un morceau qui s'appelle « Niawa ». Niawa, Joël Daïdé, c'était sur son album. Voilà le train qui revient. C'était sur son album de 1976 qui s'appelait Balade, dans lequel il s'est fait photographier assis sur une locomotive. Il y avait aussi des morceaux sur les trains.
C'était sympathique.
Tout à fait. Petit train, je l'ai passé l'autre jour, mais tu ne devais pas y être.
Non. Je regrette.
Voilà. Peut-être qu'on s'en repassera un ou deux autres. Il y a une reprise de JJ Cale aussi, quelque part, après minuit.
Alors, pour 10 euros, reprenant Sailing des Sutherland Brothers.
10 euros, t'as plus rien de nos jours.
10 euros, mais que dalle. Quoi. Et ben, on les aura la semaine prochaine, peut-être. Et puis, du coup, tu seras obligé de nous amener la version, enfin, une version par Rod Stewart.
Ouais,
parce qu'ils l'ont crédité à Rod Stewart, ils ne sont pas foulés. Hein. Et on reparlera de 10 euros la semaine prochaine, parce que leur version est assez longue, il faut bien l'avouer. Ah, ils ont fait ça, ils ont mis un quart d'heure pour la prendre, mais ils mettent la moitié du temps pour le jouer.
Et oui, et nous, on a mis une heure et demie pour faire l'émission. Hein, voilà. Donc, il est 23h, les bébés dinosaures, ça se termine, la rediffusion, c'est déjà fini, vous nous écoutez donc en live. Sachez que, si jamais vous avez manqué un bout, surtout au début, parce que la fin, vous l'aurez pas, il y a une rediffusion, les lundis de 15h30 à 17h, mais elle ne fait que 80 minutes, donc voilà. Il manque les blagues, par exemple.
Ouais. Eh oui, quel dommage, sinon.
Ça améliore beaucoup l'émission.
Le podcast, sinon.
Il y a le podcast. Si vous allez sur le site de Digit Fanzine, vous trouverez les liens pour télécharger la plupart des émissions récentes de Digit et des bébés dinosaures.
Et si vous voulez pas, vous fadez la visite du site Digit pour télécharger, vous pouvez envoyer un message au site et puis on vous mettra sur une liste d'envoi, disons une liste de courriel qui vous recevrez directement les liens.
Bien sûr, on envoie ça. Et puis depuis récemment aussi, il y a la page Facebook Bébé Dinosaure.
C'est vrai.
Alors si vous êtes sur Facebook, vous devez pouvoir devenir suiveur de la page, ou je sais pas comment ça s'appelle.
Ah oui, non mais là bon, faut pas pousser non plus.
Ami de la page, non, c'est pas ami de la page. Enfin bref. Sur la page, vous trouverez aussi les liens de téléchargement.
Oh, bah,
du moins, si je n'oublie pas de les mettre, parce que
bon, ah, là, c'est toi qui t'en charge.
Je risque moi, là, de, voilà, ouais, je risque au bout d'un moment de plus arriver à m'en tirer. Hein. Tu avais une blague à nous raconter.
Ah oui, j'en ai une pour les fans de foot. C'est trois supporters de foot. Il y a un Parisien, il y a un Stéphanois, il y a un Bordelais. Ils reviennent d'un match de l'équipe de France. Hein. Ils y sont allés quand même avec leurs atours de club, hein, bien sûr, leur écharpe et leur bonnet. Et puis, paf, le car dans lequel ils sont, un accident sur la route, retour. Et un carambolage avec deux voitures, et puis il y a un blessé assez grave apparemment. C'est une jeune femme, superbe, magnifique, très belle, mais allongée sur la chaussée, la malheureuse. Ses vêtements brûlés, alors les secouristes l'ont déshabillée. Et donc elle est là, nue sur la chaussée, alors les trois supporters s'approchent, et puis ils sont pris de compassion, là, alors... Le supporter stéphanois, il met son bonnet sur le sein gauche, tu vois, pour cacher le supporter bordelais, il met son écharpe sur le sein droit. Et le supporter parisien, il met son bonnet sur le sexe, pour cacher. Et puis il s'éloigne un peu, et puis le médecin du SAMU arrive, toute blinde et tout. Puis il regarde la femme allongée comme ça, puis il soulève le bonnet du parisien, là, puis il le remet. Puis il le soulève à nouveau, il regarde, puis il le remet. Ah, puis il le soulève encore une fois, puis il le remet, bon, il y a le Parisien qui arrive là, mais enfin, mais vous n'avez pas honte, non, espèce de vicieux, non, et l'autre il dit, non, le médecin, dit, non, c'est pas ça, c'est que d'habitude, sous ce genre de bonnet, il y a un trou du cul, mais là, non.
Ouais, tu vois, je l'avais lu, hein, mais j'avais oublié.
Merci Joe Saint-Pierre. Toujours le bon goût qu'il caractérise.
Voilà, on va pas se faire des amis parmi les supporters du PSG.
Non, mais c'est de notoriété publique. Hein. Faut pas.
Moi-même, si j'étais supporter d'un club, ça serait l'OM, donc tu vois.
Oh bah écoute, c'est mieux.
Mais donc une histoire sociale, tiens, une histoire sociale sur la médecine du travail. C'est un ouvrier qui téléphone à son patron et qui lui dit « Patron, non, aujourd'hui c'est pas possible, je vais pas pouvoir venir travailler, j'ai mal partout, j'ai les courbatures, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux mains, je suis vraiment mal foutu, je peux pas travailler. » Ah, patron dit « Non, faut que tu viennes travailler, non, c'est pas possible, mais j'ai mal partout, patron, je peux pas. Non, attends, écoute, là, il y a moyen pour ça, écoute, t'as qu'à faire comme moi. » Hein? Moi, quand je me sens un peu comme ça, un peu patraque, je vais voir ma femme et je lui demande qu'elle me taille une pipe. Et tu vois, après ça, je me sens beaucoup mieux là et je suis d'attaque et je peux faire des journées de travail de 10 heures et sans problème, tu verras. Fais comme moi, essaye et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Alors, bah, d'accord, patron, ok, ok, bon, je vais essayer. Et une heure plus tard, le patron reçoit un coup de téléphone sur l'ouvrier. Ah ouais, vraiment, excellent conseil, patron. Ah ouais, je me sens vraiment d'attaque, là, je viens de travailler, c'est super. T'as vraiment un bon conseil, t'as vraiment raison. Et puis, félicitations, t'as aussi une très belle maison.
Elle est mignonne. Voilà, bah oui, bah, on se venge comme on peut. Hein. Eh ben écoute, sur ce... Hein,
Sur ce, nous allons jouer à la roulette du jingle.
Ah ouais, d'accord. Bon, bah, balance, on va encore se taper sur Gwenec. Allez, c'est pas grave.
Los Gonococos.
Los Gonococos. Goldorak Loularzem.
Voilà, tu commences à connaître.
Hein. Ouais, bon.
Ah, ça, c'est un disque que je suis sûr que t'as pas dans ta collection.
Ah, hein. Non,
Goldorak
Loularzem,
il va être dur à trouver maintenant. Hein.
Ah, bah, c'est sûr. Oui.
Le collector total.
Ouais, non, pas trop sur internet celui-là non plus.
Non, ça m'étonnerait. Ça, c'est un vinyle de chez vinyle. Hein.
Tu vois, s'il était sur internet, tout le monde chanterait Goldorak Loularzem dans la rue.
Mais ce disque, c'est un bon moyen de faire chanter Frémion.
Ouais.
Bah, non, en fait, il chantait déjà dessus, donc on peut pas le faire chanter.
Oh, il est temps d'y aller. Allez, bah écoutez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Since he's gone, everybody really likes you, little dinosaur. Oh.